Graffiti. 19, 20 heures.
Tu vas au boulot, tu marches seul.
Histoire de femme.
À la hauteur du H&M. Y'a un type qui gueule. Eh, 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 salut, bonne meuf, t'es vraiment très charmante. Tu sais, je te mangerai pour le 4 heures. T'es si appétissante, je te ferai pas la bise, mais si tu veux, on peut baiser. Moi, les petites meufs comme toi, j'en ferai qu'une bouchée. Ben pourquoi tu marches plus vite? Je t'ai pas agressé, je t'ai même fait des compliments. Tu pourrais au moins t'arrêter. Comment ça, t'as pas le temps? Mais t'es pas célibataire, tu sais. Moi, je suis pas jaloux, viens dans mon lit, ça va te plaire aussi. Faut arrêter de te plaindre. Là, tu l'as bien cherché. T'as une jupe tellement courte, même pas besoin de la soulever. Les filles comme toi, c'est dangereux. Pire que le mal incarné. Et c'est moi que l'on accuse de me comporter en chimpanzé.
Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes le 2 avril. Vous êtes en direct dans le studio de Graffiti, votre radio locale, alternative, solidaire, culturelle, plurielle. Je vous parle depuis ce studio. Moi, c'est Audrey et je suis ravie de vous accueillir, comme chaque mois, pour une nouvelle émission d'Histoire de femmes. Émission féministe s'il en est, et ça n'est pas du tout un poisson d'avril en retard, féministe mais pas misandre, mais des fois hystérique quand même, non? Sympa. Un bref retour en ce début d'émission sur la journée du 8 mars, puisque la dernière fois qu'on s'est vu c'était avant le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. 48 000 personnes à Paris d'après la police, 120 000 selon les organisatrices, donc marée violette à Paris, mais pas que, 250 000 personnes dans toute la France. Un mot sur l'action des FEMEN à Paris ce jour-là. Elles avaient sur elles des peintures des drapeaux américains, européens ou russes, barrées d'une croix gammée. Elles ont fait des saluts nazis, un petit clin d'œil à Elon Musk au passage, au cri de « Heil Trump »,« Heil Mélanie » ou encore « Heil Poutine ». Alors ce soir, c'est une invitée que nous recevons, vous la découvrirez dans quelques minutes, mais laissez-moi d'abord vous parler d'elle en quelques mots. Ils sont partout autour d'elle, de toutes les couleurs, plus ou moins épais, des grands, des petits, des longs, des courts, des drôles, des bizarres, des surprenants, des effrayants, des plus beaux que d'autres, des qui font rêver, des qui font pleurer, hein, des qui font frémir, parfois même gémir, des qui instruisent, des qui font grandir. Elle a attendu chacun d'eux avec impatience, les a déballés, touchés, explorer, savourer. Je vous demande encore un peu de patience avant de lui donner la parole. Comme chaque mois, diverses chroniques ponctueront les échanges qui vous convaincront, si besoin en est, de la nécessité du féminisme. Et c'est Annie qui nous en parlera à 19h30, puis à 20h. En fin d'émission, nous accueillerons Tiffany du collectif Nous Toutes pour une lecture d'extraits d'ouvrages féministes. Et pas question, évidemment, tout au long de l'émission, d'oublier Alexandra qui nous fera découvrir ou redécouvrir des morceaux de musique. Alex, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir tout le monde.
Alors, tu nous as réservé une super playlist.
Oui, vous inquiétez pas.
On s'inquiète pas, on te fait confiance. Annie, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir Audrey.
Quelques
bonsoir
mots sur Alex. Tes chroniques.
Oui, alors ce soir on parlera du planning familial, qui en plus de subir les coupes budgétaires subit aussi la haine des intégristes. On évoquera différents procès en cours, puis on séchera les larmes de crocodile des bébés masculins. Et on partira en quête de solutions du côté de l'éducation.
Ça va être gai encore, hein?
Comme d'habitude.
Avant de vous présenter cet invité, parce que là je pense que le suspense est à son comble et que vous vous demandez... quelles sont toutes ces choses dont elle est entourée? Un petit mot juste sur le kit de soutien Graffiti. Je vous rappelle qu'il en reste quelques-uns, que pour 20 euros, vous avez un écusson thermocollant pardon, pour mettre sur une casquette, un blouson, une doudoune par exemple, un sticker et un magnet. Il en reste moins de 20. Ils sont en vente sur la boutique en ligne sur Hello Asso. Donc vous pouvez retrouver le lien complet sur le site de Graffiti. Et je vous encourage évidemment à acheter ce kit.
Graffiti, 19-20 heures. Histoire de femmes.
Alors ce soir, nous accueillons Flore. Bonsoir Flore.
Bonsoir mesdames, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent.
Et pardon, Flore, tu as entendu ce que j'ai dit à ton sujet tout à l'heure.
Oui.
Est-ce que tu peux nous dire quels sont ces objets, ces choses dont tu es entourée, que tu savoures, qui sont parfois petits, parfois gros, qui peuvent faire frémir? De quoi est-ce que je parlais?
Ce sont les livres.
Voilà, donc là, il y en a qui ont décroché, qui arrêtent d'écouter l'émission parce que finalement, c'est beaucoup moins drôle. Dans les livres, ça peut être aussi très drôle.
Ah bah oui, oui.
Donc tu es libraire.
Je suis libraire, oui.
Alors où ça?
À Fontenay-le-Comte, j'ai ouvert ma librairie il y a 7 ans, bientôt. On
d'accord.
va fêter bientôt les 7 ans de la librairie.
Ah, il y a d'autres librairies à Fontenay?
Il y a un espace culturel, Leclerc, mais en librairie indépendante, je suis la seule.
Tu es la seule, d'accord. Et avant toi, il y en avait une autre ou tu es partie de zéro
Alors, c'est une création. Il y a une librairie historique qui a existé, c'était la librairie de Jim Dandurand. C'était un libraire reconnu nationalement d'ailleurs, hein, qui a donné son nom à la médiathèque de Fontenay. Mais Monsieur Dandurand est parti à la retraite il y a fort longtemps. Et puis, il y a eu quelques velléités de reprise, mais comme libraire, c'est un métier, parfois ça n'a pas marché. Donc voilà, j'ai repris, enfin j'ai créé la librairie de zéro.
Donc ça fait 7 ans.
Ça fait 7 ans.
Et ça tourne très bien.
Et ça tourne pas mal, oui. On est deux, plus une alternante cette année, donc c'est plutôt bon signe.
D'accord. Et c'est une petite librairie en termes d'espace et de nombre de livres. Enfin, je ne sais pas si ça va être très parlant pour nous, mais...
Alors, comme dirait la majeure partie des clients, il faudrait pousser les murs. Le ouais. problème, c'est que plus on pousse les murs, plus on rajoute de bouquins, puisque la nature a horreur du vide. Et moi aussi. Donc, j'ai tendance à avoir pas mal de livres, mais on a à peu près 90 mètres carrés, c'est une petite librairie rurale, et j'ai à peu près 8000 références en magasin.
D'accord.
Donc un petit peu de tout, c'est une librairie généraliste. Et puis moi j'étais libraire avant, hein, mais j'ai fait mes armes principalement en espace culturel Leclerc. Et quand j'ai ouvert ma librairie, j'ai décidé que puisque c'était chez moi, je ferais des choix qui me correspondaient.
C'est ce que tu appelles être une libraire engagée,
oui.
Entre autres, enfin, c'est pas la seule raison. Alors, quand tu nous parles de choix qui te correspondent, tu veux nous en dire un petit peu plus ?
Des idées que j'ai pas envie de... de diffuser, je m'évite d'avoir ces livres en magasin. Alors c'est toujours possible de les commander, hein.
Oui,
il y a la loi Langue de 1981 qui fait que nous sommes obligés de commander à l'unité pour les clients, peu importe qui vient. Et puis mon idée c'est pas de censurer, hein, donc
toi tu veux pas faire comme Trump, c'est étonnant,
voilà.
C'est
étonnant. par contre comme je suis chez moi, quand on est chez soi, on n'est pas obligé d'inviter des gens qu'on n'aime pas. Voilà. Et donc, je préfère ne pas donner mon argent pour diffuser des idées que j'aime pas.
Et parmi ces ouvrages, il y a une demande au niveau des commandes ou c'est plutôt rare? Dans ces ouvrages que tu n'as pas en stock?
Ben, ça dépend. On va avoir, oui. On va avoir des. Des spécialistes, là en fin d'année on en a eu quelques-uns, qui sont toujours très demandés, qui font partie des meilleures ventes en essais, c'est principalement des essais. Hein. Ça j'en ai commandé quelques-uns, après évidemment comme il faut commander, parfois les gens ça les embête de commander, ils préfèrent les avoir tout de suite, donc ils vont voir ailleurs. Et puis, j'en ai vendu. Mais par contre, j'ai le livre Résister de Salomé Sacquet que j'ai en pile depuis qu'il est sorti et que je recommande en pile parce que moi en essai, la meilleure vente c'est celui-ci.
D'accord.
Voilà.
Et ce côté engagé, c'est aussi qu'à certaines périodes de l'année, en fonction de dates de journée internationale de sensibilisation à certains sujets, par exemple, tu fais des choses...
Oui. Alors, je participe tous les ans à la journée qu'on organise justement pour la lutte pour les droits des femmes. Il y a un forum syndical et associatif qui se fait sur Fontenay, donc je suis toujours là. Cette année, on a fait un arpentage féministe.
Alors, tu nous expliques un petit peu ce que c'est pour nos auditeurs et nos auditrices.
C'est une méthode de lecture collective qui existe depuis le 19e siècle, qui était plutôt dans les milieux ouvriers, quand les gens avaient peu de temps pour lire des essais un peu complexes. Et l'idée, en fait, c'est de partager le livre physiquement. Donc, il y a certaines personnes que ça choque, parce que le livre est cassé en plusieurs morceaux.
Ah oui, on le déchire. Enfin, on déchire des pages, on le casse
fait.
Vraiment.
Ouais, on se le divise. Et puis, chacun a un petit morceau, chacun lit sa partie. Et ensuite, on remet tout ça en commun. Donc, ça permet aussi de réanalyser, de discuter autour de l'ouvrage. Et donc, cette année, là, le 7 mars, on a fait ça autour du livre de Bell Hooks, qui est une afro-féministe américaine. Le titre, c'était « Tout le monde peut être féministe ».
Et alors, est-ce que tout le monde peut être féministe,
selon
toi ?
Oui, tout à fait. Il faut accepter de se remettre en question un peu de temps en temps. Mais
Et d'ailleurs, j'ai une question là qui me vient à l'esprit, parce que tout le monde peut être féministe, les hommes aussi. Ça, c'est une question qui revient régulièrement. Est-ce qu'ils peuvent être féministes ou est-ce que ce sont des alliés ? Je sais pas, tu as un avis sur la question ?
Alors après, c'est un avis tout à fait personnel.
Hein. Oui.
De toute façon, je pense que c'est un peu compliqué. Après, à partir du moment où on considère que le féminisme, c'est lutter pour les droits des femmes, je vois pas pourquoi un homme pourrait pas être féministe.
Je suis du même avis aussi, hein, puisqu'on est d'accord sur la définition du féminisme. Mais après, je peux entendre aussi d'autres choses. Je sais pas, les filles, ce que vous en pensez, vous
Moi, j'aurais plutôt tendance à être du même avis aussi.
Ouais. Mais t'as le droit, on a le droit.
Bon, après, voilà, peut-être qu'en lisant des trucs, je changerai d'avis.
Oui, c'est ça, exactement.
Alex, tu as une opinion particulière sur le sujet ? Non.
Non.
Donc, s'il y en a qui nous écoutent et qui sont intéressés par cette question, les hommes peuvent-ils être féministes ou ne peuvent-ils être que des alliés, ça nous intéresse d'avoir vos opinions et d'avoir vos arguments, en fait, pour dire qu'ils ne peuvent pas être féministes et qu'ils doivent être des alliés. Voilà, ça serait intéressant d'avoir ce débat un jour, parce que c'est vrai qu'on lit ça assez souvent, ou on l'entend dans les milieux féministes. Et voilà, est-ce que vous connaissez des hommes féministes ?
Oui.
Oui, hein. Enfin, non.
Pas beaucoup.
Non, toujours non.
Toujours non.
Désolée.
Alex, elle est en mode non ce soir, en mode robot qui dira non tout le temps. Alex, t'es une fille sympa ? Non, elle répond pas. En fait, elle n'arrive pas à dire oui ce soir. Elle ne peut pas. Non, mais là, vous la voyez pas, mais elle est tellement morte de rire que de toute façon, elle ne peut pas prononcer un mot. Donc. C'est vrai qu'on le dit souvent de temps en temps, mais il faudrait quand même une caméra, il faudrait qu'on nous filme un jour pour voir un petit peu.
Non.
Non, ben, on ne peut pas le faire, alors. J'aurais bien pensé aimer faire venir Sonny un jour pour qu'il nous filme, mais il ne filmerait pas Alex, bien sûr, qui vient d'exprimer un non-consentement, hein, qui est d'actualité.
Oui, c'est bien ça.
T'as dit oui ! T'as dit oui ! On l'a eu ! Je t'ai eu. Tu as fini par dire oui. Donc, revenons à Flore. On s'éloigne comme ça, on fait des digressions. Et donc, oui, alors, donc, tu nous parlais du mois de mars. Donc, cet arpentage, autre chose pendant le mois de mars au niveau de la librairie ?
Eh bien, dans les vitrines, je mets toujours en avant soit des textes féministes, soit des autrices, soit les deux, évidemment. Surtout les deux, en général. Mais... et puis j'essaye de mettre en avant sur tous les rayons, hein, on est en jeunesse comme en essai, comme en littérature, on essaye de faire pas mal de mises en avant. Alors c'est pas très compliqué à chaque fois, hein, parce que comme la librairie est remplie de livres féministes en tout genre, bon, c'est jamais trop difficile de faire une sélection. Là, On vient de changer la vitrine là hier. On s'est fait un petit plaisir sur tous les essais qu'on a sur la montée de l'extrême droite. Donc voilà.
C'est curieux, comme c'est bizarre. Ouais.
Des fois, je me dis que je tente un peu le diable et que peut-être un jour je vais arriver avec ma vitrine vandalisée. Ce serait dommage.
Oui, parce que ça arrive.
Ça arrive. Il y a quelques temps, les collègues, les consoeurs de la librairie, les Parleuses, si je ne dis pas de bêtises, à Nice, avaient fait une belle vitrine pour accueillir Monsieur Darmanin, qui était en déplacement pas loin de chez elle, et qui ont vu leur vitrine bâchée.
Oui. Ouais.
Donc ça, c'est en France, mais il y a un petit peu partout. Disons que bon, quand on est un petit peu engagé en librairie, on a l'impression qu'il y a un truc un peu particulier dans la librairie, d'engagement, de... Je sais pas si vous aviez vu le film Annie Colère.
Oui.
Ce merveilleux film que tout le monde devrait voir.
Bien sûr.
Splendide. Hein. Ouais. Et cette libraire qui accueille les réunions.
Oui, dans son arrière.
Dans sa réserve, ouais. Là, c'est un truc qui m'a fait très très chaud au cœur. Et je me disais, peut-être dans ces années-là, j'aurais été cette libraire-là. J'aimerais le croire, en tout cas.
Mais c'est lié, enfin, les livres, ça fait réagir. Les livres, ça joue sur les émotions, ça apporte des connaissances. Et les livres sont effectivement les premières victimes des régimes dictatoriaux. Enfin, victimes, ce ne sont pas des êtres humains, mais limiter l'accès à la connaissance, à la culture, c'est un acte qu'on retrouve dans les dictatures, enfin une politique qu'on retrouve dans les dictatures. On sait ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Il y a des livres qui sont interdits dans les établissements scolaires, dans tout ce qui est établissement public. Et pas seulement des livres, des mots. Mais les livres sont faits avec des mots, quoi.
Alors, c'est pas nouveau, malheureusement.
Oui.
La censure aux États-Unis sur les bouquins, c'est vraiment, vraiment pas nouveau. Ouais. Je fais partie de plusieurs associations de libraires, mais notamment de la Fédération internationale et européenne des libraires. Et l'année dernière, j'ai eu la chance d'avoir une bourse pour aller aux États-Unis, donc au congrès annuel des libraires américains. Donc c'était génial. C'était 4 jours de Disneyland. Disneyland pour libraire. Mais du coup, c'est un sujet qui est très, 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 très récurrent. C'était déjà une grosse inquiétude pour les libraires américains l'année dernière. Et depuis plusieurs années, il y a des États qui sont... c'est délire. J'avais blagué avec l'un des libraires en disant « bientôt, ils vont nous interdire la Bible ». Et ils avaient dit « non, mais ils ont interdit la Bible parce qu'il y a trop de scènes de sexe dedans ». Donc on est sur on est vraiment sur des trucs qui sont complètement absurdes. Et puis même chose quand on leur demandait s'ils travaillaient avec les bibliothèques par exemple, ils disaient non, en gros les bibliothèques sont tellement censurées que nous on a encore, comme c'est du libéralisme, nous on a encore le droit de vendre des bouquins. Donc en fait, en gros, nous on vend les bouquins interdits. Dans les bibliothèques, il y a ce qui est accepté par le gouvernement, quoi. Et puis nous on est là derrière. Et en fait, ça m'a fait du bien aussi de retourner, d'aller aux États-Unis et de discuter avec des libraires, parce qu'en fait, chez eux, l'engagement c'est leur ADN, quoi. Enfin, nous on a peut-être parfois un peu perdu ça. C'est pour ça aussi que quand je suis revenue, j'étais super motivée pour m'engager encore plus. Mais on a peut-être un peu perdu ça en France parce que jusqu'à présent, c'était...
Le besoin n'était pas...
C'était client. Plus...
Pas aussi fort, en tout cas.
Exactement.
Mais c'est vrai que la censure, oui, au niveau des livres, ça existe. Ça n'a pas commencé avec Trump. Mais là, il y a quand même une accélération qui est terrible.
C'est
une horreur. Et je parlais des mots. Ça, par contre, ça doit être propre à Trump d'avoir interdit dans les administrations américaines. Il y a une liste de mots, je ne sais pas si j'en ai parlé déjà le mois dernier, qui a été publié par le New York Times, entre autres. Enfin, je crois que c'est les premiers qui l'ont publié. Et dans cette liste de mots, il y a le mot femme. Il y a égalité, il y a racisme, il y a discrimination, il y a évidemment genre. Donc ça veut dire que dans tous les documents officiels, on ne peut pas lancer, par exemple, une campagne de sensibilisation à l'égalité homme-femme, puisqu'on n'a pas le droit d'écrire égalité et qu'on n'a pas le droit d'écrire femme. Donc on ne peut pas faire passer une campagne sur le sujet.
Mais c'est comme ça aussi qu'on fait disparaître les concepts. Il y a un bouquin, alors je suis toujours en train de parler de ce livre parce que pour moi c'est vraiment un livre incroyable que tout le monde devrait avoir lu. C'est de la science-fiction jeunesse, ça s'appelle Le Passeur de Loïs Laury. Mm-hmm. Il y a une adaptation abominable qui a été faite il y a quelques années qu'il ne faut absolument pas voir. et dans ce roman, en fait, ça se passe dans une société qui est complètement aseptisée. Les gens ne se marient pas par amour, ils sont appariés pendant des cérémonies. On leur met la personne qui leur correspond. Et puis ensuite, quand le couple existe depuis suffisamment longtemps, on va leur donner un bébé pour créer une cellule familiale. Et c'est vraiment les termes qui sont employés. Et en fait, on suit dans cette histoire Jonas qui a 12 ans. Et il y a une cérémonie annuelle où on fait les appariements, les distributions de bébés, etc. Dont la partie la plus importante, c'est la cérémonie des 12 ans. Donc tous les enfants de la même génération ont 12 ans en même temps. Il n'y a pas d'anniversaire individuel. Et là, on leur attribue le métier qu'ils vont faire. Donc il y a des filles qui sont envoyées comme mères porteuses, qui vont être nourries, etc., élevées. Un peu, puis à 14 ans, elles commenceront à avoir des enfants. Super. Et donc ça, on le voit pas dans Le Passeur, mais on va suivre Jonas. Et lui, du coup, le métier dont il va hériter, c'est passeur, et c'est le gardien des souvenirs de la communauté. Et en fait, grâce à ça, il va redécouvrir des concepts qui n'existent plus parce que les mots ont disparu. Et en fait, à partir de... c'est ça qui est...
C'est la novlangue, en fait. Hein. On retrouve ça dans d'autres romans de politique fiction, d'autres dystopies qui deviennent plus... qui ne sont... pour certaines plus trop des dystopies, hein, ça va devenir
mais voilà.
Hein, les enfants, les femmes qui ont des enfants, on pense évidemment à La Servante Écarlate, popularisée par la série, parce que tout le monde n'a pas lu ce livre, et puis il n'est pas récent. Mais c'est oui. Et la novlangue, enfin effectivement, à partir du moment où on enlève des mots du vocabulaire, on restreint l'expression, la réflexion, l'écriture, enfin tout ça, ça va ensemble, quoi. Les mots sont extrêmement importants. Enfin, c'est pas une libraire que je vais apprendre ça. Alors, tu as choisi un morceau de musique pour notre émission qu'Alex va nous passer, et puis. Non.
Oui.
Tu veux bien.
Si.
Et puis après, tu nous diras pourquoi.
Volo, t'es belle.
C'est ça.
T'es belle quand tu souris. T'es belle tout le temps. T'es belle même quand tu ris et qu'on voit tes dents. T'es belle quand tu rougis. T'es belle en toutes circonstances. T'es belle même quand tu fais une blague pourrie en plein dans un silence. T'es belle quand tu te trompes. T'es belle quand tu t'entêtes. T'es belle, je m'en rends compte, même quand t'as l'air bête. T'es belle quand tu t'énerves. T'es belle sans te mentir. T'es belle même si quand tu t'énerves c'est pas le moment de le dire. Déjà du temps de mes amours vagues j'étais sourd au fracas de leurs écumes. Et comme l'amour m'a toujours fait des blagues, je dois être aveugle je présume. T'es belle quand tu bois. T'es belle quand t'es bourré. T'es belle quand tu marches pas droit et que tu sais plus parler. T'es belle quand tu dors. T'es belle quand tu ronfles. T'es belle, c'est ça qui est fort, même quand tu me gonfles. T'es belle mal réveillée. T'es belle et je te jure que t'es belle même quand t'as été coiffée par tes couvertures. T'es belle quand tu me reproches de ne pas être honnête avec toi. Mais t'es belle même quand tu te trouves moche, alors je le garde pour moi. Déjà du temps de mes amours vagues, j'étais sourd au fracas de leurs écumes. Et comme l'amour m'a toujours fait des blagues, je dois être aveugle, je présume. Déjà du temps de mes amours vagues, j'étais sourd au fracas de leurs écumes. Et comme l'amour m'a toujours fait des blagues, je dois être aveugle, je présume.
quand tu souris. T'es belle tout le temps. T'es belle quand tu rougis. T'es belle quand tu me reproches de ne pas être honnête avec toi-même. T'es belle même quand tu te trouves moche, alors je le garde pour moi. T'es belle tout le temps. T'es belle quand.
Très beau morceau. Est-ce que tu peux nous dire, Fleur, pourquoi tu voulais nous faire écouter ce morceau ce soir ? Même si le choix n'a pas été facile, si j'ai bien compris.
Oui, j'ai hésité sur deux chansons qui n'ont absolument rien à voir. Parce que la romance revient à la mode et que moi, je suis très fan de romance, mais la romance saine, épanouie, sympa, qui nourrit, voilà. Et cette chanson, je la trouve vraiment chouette pour ce voilà. Moi, quand mon amoureux il me dit t'es belle, j'entends cette chanson.
C'est beau. Alors c'est vrai, est-ce que je rebondis sur ce que tu viens de dire sur la romance, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui revient, parce que ça existait, ça s'appelait pas romance, on l'appelait autrement et c'était peut-être pas du même niveau. Moi je lis pas de romance, donc je ne sais pas exactement. C'était les romans de gare, les romans roses, Barbara Cartland, etc. C'était tourné en ridicule et c'est... Alors, je ne vais pas comparer la qualité ou pas, parce que je ne lis pas de romance, mais ça revient. Et au départ, j'ai trouvé ça bizarre, moi. Hein, je me suis dit, nivellement. Et je me rends compte, parce que je travaille avec des jeunes, hein, des jeunes adultes, que ça les fait revenir à la lecture, en fait. Surtout les jeunes femmes. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu constates.
Alors, en fait, je pense qu'il y a un truc qui est assez complexe. C'est... Je pense que les écrivaines qui écrivent la romance depuis 10 ans, on va dire, c'est des jeunes femmes qui ont commencé à écrire sur Internet. Oui. Beaucoup sur de la fanfiction, ou pas forcément de la fanfiction, de la fiction originale, et qui viennent d'une autre culture, en fait. Plutôt pop culture, plutôt pas forcément le côté très traditionnel de l'écriture ou de la littérature. Et je pense que ça a permis aussi... qu'il y ait des romans qui soient beaucoup plus faciles, beaucoup plus abordables, et notamment pour des jeunes adultes qui se sont dit que c'était des sujets traités qui les intéressaient, qui leur correspondaient, qui leur parlaient. Et je pense que ça a pas mal joué. Maintenant, je pense qu'il y a aussi tout l'effet réseaux sociaux, et puis on va dire... l'auto-nourrissage, je sais pas comment dire autrement, mais je pense que à force d'en lire, on en voit... moi, j'étais une très, très grande fan de fantasy, par exemple. J'ai lu 150 000 bouquins de fantasy, et je pense que si les gens qui ne lisent pas de fantasy me diraient « Bah oui, bon, c'est toujours la même chose, t'as un héros qui court après une quête, bon, voilà, c'est pas très, très intéressant. » Et en fait, quand on se spécialise, on va dire, dans une lecture, on en trouve les subtilités. Donc je pense que ça a beaucoup joué sur le fait d'augmenter la consommation de romances et puis d'en trouver une certaine fierté, alors qu'avant on se cachait un petit peu pour le lire. Moi, ce qui me pose problème, c'est que on a tout ce qui sort. Ma vraie problématique, c'est la new romance et la dark romance. Principalement la dark romance, hein. La new romance, on est encore sur des choses qui sont sexistes, mais subtiles, on va dire. Mais la dark romance, on sort de la subtilité et on glamourise beaucoup les violences conjugales, les relations d'emprise, etc. Et on excuse les violences psychologiques et physiques parce que monsieur a eu une enfance difficile. Et ça, moi, j'ai vraiment un problème quand à la librairie, j'ai des jeunes de 12-13 ans qui viennent viennent me demander ce genre de choses. Mmh. Parce que je pense que la Love Map à 12-13 ans, elle est loin d'être terminée.
Bien sûr.
Et qu'on finit par normaliser sans forcément s'en rendre compte des relations toxiques, quoi.
Donc il y a du boulot. Hein. Mmh. Et d'ailleurs, en parlant de boulot, on arrive à l'heure de la première chronique d'Annie. Hein. Et oui, il y a du boulot, hein, Annie?
Oh oui.
Oui. On t'écoute.
Et oui, comme tous les premiers mercredis du mois, c'est parti pour une séquence déprime. Alors, pour bien comprendre dans quel contexte se déroulent les faits que je vais évoquer ensuite, je voulais commencer par planter le décor, histoire de déjà bien plomber l'ambiance. Alors attention, trigger warning, violence sexiste et sexuelle. Dans notre monde actuel, le viol est utilisé comme une arme de guerre au Soudan de manière récurrente, et des enfants meurent sous les bombes à Gaza. Plus localement, nous vivons dans un pays dont le Premier ministre a protégé des pédocriminels, le ministre de la Justice est un agresseur, le ministre de l'Intérieur est islamophobe, et les représentants de partis politiques xénophobes sont adoubés par un dictateur génocidaire. Ah oui! Et alors qu'il avait promis de faire de la lutte contre les violences faites aux femmes la grande cause de son premier quinquennat, le président de la République trouve que ce qui rend fier le pays, c'est un violeur. Je ne sais pas, mais ce décor, il est plutôt propice aux films d'horreur, non?
C'est clair.
L'horreur, c'est probablement ce qu'ont dû ressentir les membres du Planning Familial 85 au lendemain du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, lorsqu'elles ont découvert une gerbe de fleurs mortuaires déposée devant leurs locaux de La Roche-sur-Yon, accompagnée d'un message provenant de l'Action française, probablement de la même bande de délinquants qui avait vandalisé la place Simone Veil un an auparavant. Dégradation pour lesquelles elles ont écopé de sanctions financières dérisoires, desquelles elles ont osé faire appel. Cette bande de lâches, qui n'a peut-être pas apprécié que le planning familial tente de se constituer partie civile dans le procès qui les opposait à la ville de La Roche-sur-Yon, voulait a priori rendre hommage, je cite, « aux bébés assassinés », pathétique allusion aux IVG. Peut-être qu'un petit rappel biologique ne leur ferait pas de mal. La différence entre les embryons et les bébés, c'est que les premiers, si tu les congèles, c'est pas grave. Eh oui, désolé, l'humour noir, bientôt, ce sera tout ce qui me reste, tout ce que ce triste monde m'inspire. Triste monde, théâtre de peur et de domination mortelle, dans lequel Christelle François a été assassinée par son ex-conjoint le 13 mars dernier à Aisnay. Triste monde, théâtre de terreur silencieuse et de cruauté létale, dans lequel, en 2021, 122 féminicides ont été commis. Parmi ces femmes assassinées, Aurélie Langelin, tuée à Douai le 31 mai 2021. Son ex-conjoint, Karim Belkacem Hammer, vient d'être condamné à 30 ans de réclusion, dont une période de sûreté de 15 ans. Parmi ces femmes assassinées, Shahinez Daoud, d'abord blessée par balle aux deux jambes, puis brûlée vive en pleine rue à Mérignac le 4 mai 2021 par son ex-conjoint qui l'espionnait depuis des jours. Ce dernier, Mounir Bouta, vient d'être condamné à la réclusion à perpétuité. Deux condamnations dans un océan déchaîné de crimes impunis. C'est peu, trop peu. De plus, on sait, grâce notamment à un rapport de l'IGPN, que Shahinez, au moins, aurait pu avoir la vie sauve si la culture du viol et le patriarcat ne gangrénaient pas les commissariats. Sa dernière plainte, à l'encontre de son bourreau, loin d'être la première, avait été mal enregistrée par un flic lui-même condamné pour violence conjugale.
C'est dingue.
Comble de l'ignominie, son bourreau n'a cessé de se victimiser tout au long de son procès, probablement encouragé par la complaisance habituelle accordée aux auteurs de violences sexistes et sexuelles. Abject. Abject, c'est un qualificatif qui sied aussi parfaitement à la défense de celui dont notre président est si fier. Lui aussi se victimise. Il faut dire qu'il a trouvé un avocat à son immonde hauteur. C'est un peu comme si Donald Trump défendait Vladimir Poutine. Ou bien si Elon Musk défendait Benjamin Netanyahou. Ou bien si Jeffrey Dahmer défendait Jack l'Éventreur. Enfin, vous avez compris l'idée. Un agresseur qui défend un agresseur. Pendant tout le procès, L'avocat, comme son client, n'ont cessé de cracher sur les victimes et sur leurs avocates, de les mépriser, de chercher à les humilier, à les rabaisser. Peut-être avaient-ils besoin de réaffirmer leur domination, comme si elle n'avait pas encore assez fait de dégâts. Depardieu a été jusqu'à dire que tout le monde savait qu'il ne fallait pas mettre des jolies jeunes filles avec Gérard. En gros, tout le monde sait que c'est un agresseur, même lui. Espérons que les juges le sachent également et que, quelques mois après le procès des viols de Mazan, leur conscience vis-à-vis des violences sexistes et sexuelles est considérablement augmentée. Et, de ce fait, qu'ils condamnent cet agresseur ordinaire à une peine plus lourde que celle requise. Réponse le 13 mai. En attendant, à l'instar des associations et collectifs féministes, apportons tout notre soutien aux victimes qui ont dû subir ces ignobles propos pendant 4 jours, en plus de ce qu'elles ont subi auparavant. Pour finir, je voudrais tenter de vous faire rire un peu pour changer. Ce type dégueulasse, je ne veux plus le voir. Du coup, ça me pose un problème d'Obélix. Bah oui, je l'aime bien lui. Mais j'ai une idée. On cherche un grand type, un peu dodu, qui file des baffes. À qui vous pensez?
Un peu dodu qui file des baffes.
J'ai une idée, mais...
À Teddy Riner, bien sûr. Et alors là, avec un Obélix de couleur, Retailleau fait un AVC, Le Pen une crise cardiaque, Bardella une rupture d'anévrisme, Pascal Pro s'étouffe, bref, hécatombe à l'extrême droite française. Début de la fin du patriarcat, on y croit. Mais surtout, surtout, Amélie et Sarah, on vous croit.
Eh bien sûr. Et pour revenir sur les propos qui ont été prononcés par l'avocat de Gérard Depardieu, eh bien, par exemple, il a qualifié les femmes d'hystériques. Hein, puisque
oui.
Mais pas que, hein, mais... C'est épouvantable. On se croirait à une autre époque. Enfin, sa plaidoirie, ses propos, c'est indigne d'un avocat. Enfin, je veux dire, ok, tout le monde a le droit d'être défendu, un avocat, c'est son boulot, etc. Mais là, c'est de l'agression, en
fait. Alors, suite à Mazan, on se repose encore la même question, hein, oui. À propos des avocats. Hein, ils vont trop loin.
C'est inacceptable. Enfin, je crois qu'il fait plus de tort à son... Enfin, on verra bien le verdict du 13 mai, mais...
Mais apparemment, c'était une stratégie de Dupond-Moretti aussi, d'écorcher les noms des plaignants ou ce genre de choses. Parce que là, c'est pareil, il n'a pas été capable de prononcer une seule fois correctement les noms des victimes et les noms des avocates.
Il employait des tons, des imitations grossières.
Oui, il y a eu des imitations, effectivement. Ouais.
Mais en fait, les avocates ont demandé des dommages et intérêts pour la violence institutionnelle.
Ouais. D'accord.
Il me semble.
13 mai, donc. Hein, et juste, puisque tu parlais de féminicide, le 29 mars, donc il y a 3 jours, nous étions à 37 féminicides en France depuis le 1er janvier. À titre de comparaison, l'année dernière, nous étions à 42, alors qu'on ne se dise pas chouette, il y en a moins. Il y a 2 ans, on était à la même date, on était à 31. Donc ça va pas. Et en fait, ça veut dire aussi que ça ne... Enfin, il y a MeToo, il y a toutes les affaires, il y a l'affaire Mazan, il y a tout ça. Et puis, en fait, ça baisse pas. C'est fou. C'est un petit peu de musique.
Un petit peu de musique, oui. Alors, le dernier, Louisa Donna avec Mathilde.
Les petites filles sont des punks. Elles finissent par grandir, elles touchent le fond et se cognent. Avant de rebondir, elles jaillissent des entrailles du pire des humains. Elles foncent dans la bataille, elles n'ont plus peur de rien. C'est bien beau d'applaudir, faudrait penser à réagir. Autant parler à un mur quand les oreilles font les durs. Et quand on crie sans voix et que personne ne
sont des punks qui ont bien grandi et n'ont plus peur de la nuit.
Les petites filles sont des punks qui ont bien grandi, elles n'ont pas peur de la nuit. Si ça pouvait être vrai.
Ouais, c'est beau. Hein.
Ouais, c'est... On devrait écrire ça sur les murs du studio. Lionel, si tu nous écoutes, c'était une plaisanterie. Lionel, c'est notre chef. Ben, c'est un homme. Non, Lionel, je n'ai rien dit. Non, on n'est pas misandre, je te rappelle. Donc... Alors, Flore, tu nous as parlé tout à l'heure du congrès des libraires aux États-Unis où tu as été, mais donc c'était pas celui de cette année, mais celui de l'année précédente, c'est ça? Mais tu as une amie, une collègue, confrère, enfin consoeur en l'occurrence, qui est allée, elle. Oui. Et est-ce que dans ce qu'elle t'a raconté, tu as senti une différence que maintenant qu'il y a Trump par rapport à ce que toi t'avais vécu?
Oui. A priori, c'était très 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 compliqué. C'était très difficile. En fait. Ils essayent de s'organiser, mais il y a aussi beaucoup d'angoisse, je pense, sur l'avenir, sur c'est en tout cas c'était a priori c'était très très déprimant ce congrès. Alors ils ont essayé de pas trop en parler et de parler de problématiques un petit peu plus triviales.
Donc c'était pas le Disneyland des libraires comme toi tu l'avais vécu.
C'était pas le Disneyland des libraires, non, je pense pas. Non, l'ambiance était quand même assez particulière. En plus, cette année, alors, ils essayent de changer de ville d'accueil, puisque, bon, les États-Unis, c'est un petit peu grand.
Mais ça va être beaucoup plus grand une fois qu'il y aura le Canada, le Groenland.
Oui.
Puis après, il y aura nous aussi, hein.
Tout à fait. Mais du coup, effectivement, cette année, c'était dans le Colorado, à Denver. Donc, le Colorado, je ne sais pas trop comment il se positionne, mais c'était pas très loin du Texas non plus et tout ça. Donc, mystère. Mais il y a quelques années, ils avaient fait ça à Seattle. C'était à Baltimore ou à Seattle, je ne sais plus. Et ils étaient accompagnés par la police à chaque fois qu'ils changeaient d'endroit. Ouais, les libraires sont accompagnés par la police, ça fait un peu.
C'est des terroristes, des libraires.
C'est SF, c'est un peu. Ben, ou alors c'est qu'il faut les protéger. Ouais. Je pense que c'était plutôt dans ce sens-là, mais ouais.
Oui, bah,
j'espère. Maintenant, pour Trump, c'est.
Mais ce congrès international, il y en a d'autres ou.
Alors.
Il y en a plusieurs des congrès internationaux ou il y en a
alors,
qu'un
en fait, et
il est toujours
là, c'était un congrès national des États-Unis, mais ils ouvrent l'ABA, donc l'American Bookseller Association, ouvre quelques places pour des libraires étrangers. Ça permet aussi de découvrir aussi les différents aspects. Nous, en France, on a les Rencontres nationales de la librairie qui ont lieu tous les 2 ans. L'année dernière, c'était à Strasbourg. Mm-hmm. Du coup, je n'ai pas pu y aller, mais c'est plutôt sympa. C'est pareil, alors ça dure un petit peu moins longtemps. Ce qui est très étonnant et très amusant, c'est que en France, on a à peu près le même nombre de libraires indépendants qu'aux États-Unis.
Ah!
Ouais,
ah
c'est
oui.
Pas
quand
le même
sur
pas
la
même surface,
pays, enfin la taille de oui, c'est,
ouais,
c'est
pas le même
très
territoire.
Hein. Oui,
Alors ça joue parce que
C'est peut-être pour ça qu'ils ont voté pour Trump. Enfin, ils n'ont pas voté directement pour ça, mais c'est peut-être pour ça qu'il a été élu. Il y a un problème.
Hein. Et oui, c'est sûr qu'il y a un problème probablement qui peut jouer. Oui, c'est pas faux. Mais nous, on a la chance d'avoir la loi dont je parlais tout à l'heure, hein, la loi Langue de 1980, qui impose un prix unique.
Ah oui.
Donc en France, le prix du livre est le même partout, si vous ne le saviez pas, voilà, désormais.
C'est très important de le
dire. Et donc, alors on a le droit de faire une remise de 5%
oui.
en magasin seulement. Donc les grandes surfaces culturelles, U-Culture, Espace Culturel, Cultura, etc., ont tendance à faire les 5% automatiquement. Mmh. Donc vous les avez tout de suite en caisse. Nous, quand on peut, parce que au niveau des marges, c'est pas toujours évident, mais quand on peut, on fait des cartes de fidélité, donc
oui,
au bout d'un certain nombre de passages ou ce genre de choses. Pardon. Et
oui, on a ça à La Roche.
Oui,
effectivement, carte de fidélité ou carte professionnelle pour les enseignants. Aussi.
Oui, voilà, ça dépend. Alors après, c'est des calculs qu'on fait. Malheureusement, on est obligé de faire certains arbitrages des fois, parce que la librairie, c'est un commerce qui fait très peu de marge. Donc, si ça ça signifie embaucher ou remercier un salarié, bah, évidemment, on va peut-être un peu tirer sur les cartes de fidélité. Mais hormis ces 5% de remise, le prix est fixé par l'éditeur. Nous, on n'a pas la main là-dessus. Et donc, le prix est le même partout, pour le livre neuf, évidemment. Mmh.
Alors, on n'a pas dit tout à l'heure, tu as quel âge, Flore ?
Moi, j'ai bientôt 34.
La réflexion fut longue.
Oui, non, mais moi, j'ai arrêté de compter à 16 ans, de toute façon. Ça fait quelques temps que je suis majeure, mais...
Non, parce que tu es jeune, et donc tu as créé ta librairie, c'est pas rien. C'est une expérience humaine, professionnelle, qui n'est peut-être pas toujours de tout repos.
Non,
Et qui a peut-être été sans doute plus difficile au départ, hein, parce que...
Alors, c'est étonnamment non. C'est en fait, donc moi j'ai fait mes armes en espace culturel parce que c'est là qu'on trouve du travail. Comme je disais, la librairie c'est compliqué parce que ça fait relativement peu de marge, donc il faut réussir à tirer suffisamment de marge pour pouvoir embaucher quelqu'un. Et j'en avais marre de travailler pour les espaces culturels pour plein de raisons différentes. J'ai adoré travailler en espace culturel, mais là c'était voilà, j'avais envie de passer à autre chose. Et du coup, je voulais revenir en Vendée. Et bon, les places sont chères, disons, quand on cherche du travail en librairie. Déjà, il y a 7 ans, mais là, ça devient encore plus compliqué, je pense.
Alors, elles sont chères parce qu'il n'y a pas assez de librairies ou parce qu'il y a trop de libraires qui veulent travailler dans les librairies ?
Parce qu'il y a beaucoup de gens sur le pas de la porte, oui.
D'accord.
Et puis, il y a relativement peu de postes. Enfin, voilà, c'est plutôt un flux... Enfin, voilà, c'est plutôt assez tendu. Il y a beaucoup de gens qui voudraient être libraires.
Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, en soi. C'est pas une bonne nouvelle qu'ils trouvent pas de place, mais qu'il y ait beaucoup de gens qui veulent travailler.
Oui, enfin, bah oui, c'est un chouette métier.
Sur le plan
culturel,
c'est une bonne chose.
Ouais, ouais, ouais. Et puis, du coup, il y avait pas de poste en Vendée, mais j'avais vraiment envie de rester en Vendée, donc j'ai décidé que j'allais ouvrir ma librairie, comme ça, je créerais un poste. Et donc, les 2-3 premières années, j'avais le feu sacré. Ouais. J'avais pas encore la trentaine, parce que passer la trentaine, on est vieux. Mais non, okay. Mais je suis sûre que vous, aucune de vous l'a passé.
Là, il faudrait vraiment que tout le monde voit la tête d'Alex.
Elle a dit non. Mais oui, non, pendant 3 ans, ça a été... Je pouvais faire des réceptions jusqu'à minuit, 1h du matin, tout ça. C'était chouette, j'avais travaillé tous les jours. Et puis maintenant, ça fait 2 ans que je suis en burn-out, mais tout va bien.
Mais donc, parce que peut-être tu... Enfin, je sais pas, sur le plan financier, sur le plan de la gestion, t'avais des compétences dans ce domaine, hein?
En fait, c'est ça que j'ai dû apprendre. Non, j'ai eu la chance, parce que mon frère était comptable à ce moment-là, donc il m'a beaucoup aidé pour les montages financiers et tout ça. Je déteste pas les chiffres non plus. J'aime bien les livres, mais j'aime bien les chiffres aussi. J'aime bien les livres de comptes, finalement. Tous les livres de comptes. Donc non, ça m'a permis quand même, j'ai été très très soutenue, mon frangin m'a aidée sur la compta, ma mère qui était enseignante était en passe de prendre sa retraite, donc elle a travaillé à la librairie après sa retraite, un petit moment jusqu'à ce que je puisse embaucher quelqu'un à temps plein, donc heureusement...
T'as eu beaucoup de soutien
Ouais.
D'accord.
Il faut envisager aussi. En fait, il y a beaucoup de velléités de création de librairies maintenant. Il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de gens. C'est des réorientations professionnelles. La librairie, c'est vraiment un métier, ça s'apprend.
Il suffit pas d'aimer lire, quoi.
Plein d'autres métiers. Mmh. Et oui, il suffit pas d'aimer lire. C'est très bien, hein, mais ça demande plein d'autres compétences. Et donc, et quand on crée sa librairie, en plus, il y a la casquette entrepreneur, qui est encore une autre casquette. Mmh. Donc, si on arrive et qu'il faut apprendre les deux casquettes et se dépatouiller avec les deux casquettes, c'est pas toujours évident. Donc voilà.
Donc tu reçois des catalogues à ouais. chaque rentrée littéraire ou...
À tous les deux. En fait, il y a 60 000 livres qui sortent par an et c'est toute l'année. C'est entre... Il y a une pause entre le 14 juillet et le 15 août, en gros, parce que tous les éditeurs ferment, prennent leurs vacances, etc. Et puis, de toute façon, c'est les vacances, donc les gens ne s'intéressent pas trop aux sorties qu'il y a. Et puis, entre le 10 décembre et le 31 décembre, parce que c'est Noël, les gens font leurs achats de Noël et tout ça. Donc, pareil, encore une fois, ça n'a aucun sens d'avoir des nouveautés à ce moment-là. Mais sinon, toutes les semaines, ils sortent des nouveaux titres. Et donc, tous les mois, tous les deux mois, selon les distributeurs, donc les diffuseurs, donc les entreprises qui agglomèrent plein d'éditeurs, on reçoit un catalogue, et il faut éplucher le catalogue, ça passe, des fois on passe des journées entières à lire des catalogues, c'est chouette, c'est fun de lire des catalogues, des codes-barres et des prix et des titres, et voilà.
Et les livres que tu commandes, que tu mets en rayon, tu peux pas tous les lire?
Non.
Donc, t'essayes d'en lire un maximum, tu choisis en fonction de tes goûts personnels aussi.
Oui, on se partage. La librairie, c'est un métier qui demande surtout une très, 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 très bonne mémoire. C'est l'outil de travail principal, c'est la mémoire. Et moi, j'embête toujours mes stagiaires quand ils passent par là. Je dis oui, il faut bien retenir. Tu vois, quand tu ranges les livres, tu ranges un livre, tu regardes ce qu'il y a autour et puis tu sais. Une fois que tu l'as rangé, tu sais, j'aimais bien, c'était une question d'ego là, vraiment, mais quand j'étais en espèce culturelle, on avait 50 000 références, un truc comme ça, et on avait un seul poste informatique sur les 800 mètres carrés de surface. Donc, il fallait courir partout. Quand il y a quelqu'un qui demandait quelque chose, s'il fallait faire 20 mètres pour aller regarder sur l'ordinateur et tout ça, donc moi, mon but, quand je travaillais à ce moment-là, c'était de savoir où étaient rangés les bouquins, et si je les avais, et si je pouvais les... Et donc c'était le grand plaisir, la grande fierté, c'était de dire « Ah ben oui, bien sûr, on l'a là, hop, on regarde même pas le rayon, on chope le livre dans le rayon et on le donne aux clients, et ils sont là « Ah, mais comment vous faites ?» J'ai un super pouvoir.
Mais comment on fait pour... Parce qu'il y a des gens qui viennent et qui demandent des conseils. Donc évidemment, t'as pas lu tous les livres.
Non.
Donc, maintenant, tu les connais quand même, tu les as choisis, tu as choisi de les mettre dans tes rayons, mais il faut pouvoir conseiller les gens sans avoir lu les livres.
Alors maintenant, je connais les livres et je connais les gens.
Ah oui.
Donc ça aide aussi vachement parce que quand je travaille les... d'où la mémoire, hein, ça c'est important aussi. Quand je travaille les catalogues, je me dis, celui-là, il va plaire à Madame Machin. Ah, je vais en prendre un. Et puis peut-être qu'il plaira à Madame Machin, je vais en prendre deux. Celui-là, à mon avis, Monsieur Machin, il va me le demander. Ah oui, ça c'est une série que suit Monsieur Intel et tout. Et donc, ça permet aussi de... d'adapter son fond, enfin c'est ce qu'on appelle les livres dans la librairie, on appelle ça un fond, mais adapter son fond au public, c'est le petit intérêt aussi, ouais. Qui est plus facile quand on connaît sa clientèle, quoi. Je sais que tel livre, par exemple, ça va parler de grands espaces américains, et je sais que telle cliente, elle aime bien ce genre de livre, ou monsieur Duchemol, il aime bien le polar historique de telle période, donc là, j'ai un nouvel auteur. Mon avis, ça peut lui plaire, il ne connaît pas, ça va être chouette de lui faire découvrir.
Alors quand le client ou la cliente n'est pas
du coin,
inhabitué, n'est pas du coin, ou que quelqu'un demande un conseil pour faire un cadeau à quelqu'un que tu ne connais pas, là pour le coup c'est plus compliqué.
Eh bien en fait, d'où vraiment l'outil de travail, la bibliothèque mentale, c'est super pratique, c'est toujours sur soi. Et ça marche un petit peu comme Babelio avec les tags.
Ah oui.
C'est le même principe. On va chercher dans son cerveau, dans sa mémoire. On se dit, alors attends, la personne, il faut que... Alors évidemment, on a besoin d'indices. Ah oui,
bien
elle
sûr,
lit quoi
sûr.
Qu'est-ce qu'elle a lu? C'est quoi son dernier roman? On adore quand c'est pas pour un cadeau et que la personne est là. De préférence, c'est beaucoup plus facile. Vous aimez bien ce genre de livre. Ok, d'accord. Est-ce que vous attachez plus d'importance au style ou plus d'importance à l'histoire? Est-ce que vous aimez plutôt des personnages un petit peu, je sais pas, torturés? Ou est-ce que vous aimez des sagas familiales ou... Et puis petit à petit, en fait, on va tirer un fil, quoi. On va essayer de chercher. Et vous avez besoin d'un bouquin pour aller en Moldavie. Vous aimez bien lire des romans quand vous partez en vacances. Ok, d'accord. Alors, est-ce que j'ai un auteur moldave dans la... Et puis voilà, on essaye de faire comme ça. Et puis tout ça, bah, on le cherche dans ce qu'on sait. Et donc, c'est toujours ce que je dis à mes stagiaires, c'est hyper important de lire, évidemment, de lire et puis garder le plaisir de la lecture. C'est pas toujours évident des fois, parce que c'est des devoirs, mine de rien. C'est hyper important de lire, mais ce qui est important, c'est de connaître les livres. Et c'est deux choses qui sont assez différentes, en fait, finalement.
Ouais. Donc, et c'est ce qui fait le libraire plutôt que le vendeur dans certaines grandes surfaces.
Oui, parfois.
Qui sont juste des vendeurs, en fait, et qui... certains, en tout cas.
Et puis, ce qui est important aussi, c'est qu'il faut savoir écouter les gens, parce qu'en fait, y a des trucs que nous, on n'a pas aimés, mais qui vont plaire à quelqu'un. Et, alors, évidemment, c'est plus difficile à vendre, parce que bon, nous, on ne l'a pas forcément aimé, donc on va peut-être avoir moins d'enthousiasme. Mais... les gens, quand ils viennent chercher conseil, ils veulent aussi un peu qu'on les écoute.
Oui.
Parfois, il y a des livres... moi, je sais qu'il y a un bouquin que j'ai conseillé énormément parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et il avait plein de qualités qui faisaient que bon, je pouvais le distribuer un peu à tout le monde. Mais y a des fois, je ne pouvais pas le conseiller parce que ça ne correspondait pas du tout à la demande. Quoi.
Bien sûr.
Donc, c'est vrai que quand on aime bien des bouquins, des fois, on a tendance à...
C'est comme quand on fait les cadeaux à Noël, on ne les achète pas pour soi, mais pour les autres.
Exactement, voilà. C'est ça.
Il faut oublier ses propres goûts et essayer de penser à ceux de la personne à qui on fait un cadeau.
Ouais.
Effectivement, c'est ça le métier de libraire, en fait. Hein. Comme tu le disais, ce n'est pas seulement d'aimer lire. Hein. Et l'objet livre, tu as une opinion sur les e-books, par exemple
j'ai acheté une liseuse il y a quelques années, je ne l'ai jamais utilisée. Je ne sais même pas où elle est d'ailleurs, elle doit être cachée, perdue dans un carton. Donc c'est dire, okay. Si moi le livre numérique ça me botte. Après je pense que ça peut être un bon complément. En fait les gens qui sont lecteurs, de toute façon, ils achètent des livres au moins pour en offrir. Donc je ne suis pas convaincue que le livre numérique... mettre en danger le livre papier.
Ah oui, non, ça je crois pas non plus.
Par contre, grâce à l'EIBF, la Fédération Internationale des Libraires, je suis partie aussi à Bruxelles il n'y a pas longtemps à une table ronde, enfin pour une table ronde. Il y avait une personne qui travaille pour un organisme qu'elle a créé qui s'appelle Love for Livre. Et qui a fait beaucoup de travail sur la bibliothérapie, sur plein de choses, les bienfaits de la lecture, etc. Et elle disait, a priori, les bienfaits de la lecture viennent aussi de l'aspect physique, d'avoir un livre papier dans les mains.
Ouais. Alors c'est marrant parce que moi, j'ai une liseuse aussi que j'ai achetée il y a quelques années. Alors, moi, je trouve ça pratique, c'est pour partir en vacances. Surtout quand on prend l'avion, parce que les livres ça pèse lourd, donc quand on a droit à 10 kilos on ne sait pas combien on va en dévorer en fonction de la météo, de là où on va aller, de ce qu'il va y avoir à visiter, etc. Par contre, en dehors de ça, je ne m'en sers pas du tout. Et quand j'ai lu un livre sur ma liseuse qui m'a plu, je le rachète en papier pour le mettre dans ma bibliothèque. J'ai besoin de l'objet, en fait.
Ouais, c'est souvent le cas.
C'est assez... Et puis, pendant un moment, on avait pensé aussi que ça allait peut-être davantage se développer, les e-books, parce que ça serait plus abordable. Parce que, mine de rien, acheter des livres, c'est cher. Ça a un coût et tout le monde ne peut pas se le permettre. Mais finalement, il n'y a pas une grosse différence de
prix. C'est le prix du papier qui est exorbitant.
Alors,
Les e-books ne sont pas beaucoup moins chers. Enfin, les récents, ceux qui sortent.
En fait... faut regarder les bouquins aux éditions des Arènes. C'est assez sympa parce que à la fin, ils remercient tous les gens qui ont travaillé sur le livre. Et on s'en rend pas compte, mais un livre, ça fait vivre énormément de gens. Il y a évidemment l'auteur, mais il y a aussi l'éditeur, il y a le correcteur, il y a le maquettiste, il y a le traducteur parfois, il y a plein de, l'imprimeur évidemment, enfin plein de métiers que j'oublie. Et du coup, en fait, c'est un objet qui condense plein de savoirs et plein de métiers.
Ce qui explique le fait que pour le livre numérique, finalement, c'est pas beaucoup moins cher parce que, mis à part, effectivement,
la fabrication
du livre, tout le reste, hein, tout ce que tu viens de dire, tout le reste en dehors de la fabrication, bah, c'est les mêmes coûts en fait.
Bah oui, et puis après, bon évidemment, les librairies, alors techniquement vous pouvez acheter, ma librairie est sur Place des Libraires par exemple, c'est un site de vente et de réservation en ligne qui concerne les libraires indépendants, et donc on peut acheter des livres numériques sur Place des Libraires, et on peut choisir la librairie chez qui on achète le livre numérique. D'accord. Mais en fait... nous, on ne fait pas de distribution de livres numériques. Donc, il y a effectivement les libraires en moins aussi sur, sur le livre numérique.
Oui, effectivement. C'est...
Mais bon, après, je me dis, si les éditeurs font un peu plus de marge, peut-être que... Je ne suis vraiment pas connaisseuse sur l'industrie du livre numérique, mais peut-être aussi que les auteurs ont plus de droits d'auteur, ce qui pourrait être intéressant aussi.
Peut-être, ok. Eh bien, il est 20h, donc nous arrivons à l'heure de la chronique numéro 2 d'Annie. Est-ce qu'on a le temps de mettre un petit morceau de musique avant ou est-ce qu'on enchaîne directement avec Annie? Allez.
Allez.
Elle a dit oui. Qu'est-ce que tu nous as fait écouter là, Alex?
Alors c'est un groupe de musique qui s'appelle La Femme et Si un jour, c'est le titre de qu'on vient d'écouter.
C'est un morceau récent?
Non, je dirais qu'il a 4 ou 5 ans l'album.
D'accord.
Déjà.
Ok, bon, c'est pas très vieux non plus, mais ça vient pas de sortir, quoi.
Non, ça vient pas de sortir.
D'accord. Ça donne envie de découvrir.
Oui, oui, oui. Ben franchement, leurs albums, c'est pas le premier, c'est le deuxième ou troisième. Ils sont très très bien.
Oui, oui, c'est ce qu'on vient d'entendre. Oui. C'est...
Bah, je pourrais vous en passer d'autres morceaux aussi qui sont un peu... un peu rigolo.
Ça serait pas la première fois.
Il y a un truc rigolo. Alors, le groupe s'appelle La Femme. Si vous voulez vraiment écouter, vous allez sur Internet. Et il y a un titre qui s'appelle Mycose. J'adore ce morceau. Je vous invite à le découvrir. Vous allez bien rire. Et peut-être vous remémorez certains souvenirs aussi. Voilà. Bon. Je pense que là, on devrait passer à la chronique d'Annie.
Ouais, parce que là, c'est fini de rire. Voilà. Okay. Annie, vas-y, plombe l'ambiance.
Alors, commençons cette chronique en complétant le décor planté dans la précédente. Dans le théâtre de l'horreur que devient notre vieux monde, la lutte contre l'antisémitisme semble autoriser l'apologie de l'islamophobie. J'en veux pour preuve le récent séjour de Jordan et Marion à Jérusalem. Si ce n'était pas aussi terrifiant, on croirait presque le titre d'un livre pour enfants. Mais malheureusement, ça relève plutôt de la propagande. Alors, sous couvert de belles idées, elles ont ouvert très très grand les vannes de l'islamophobie décomplexée, du racisme débridé, bref, de la haine par flots immenses déversés. Leur cible en ce moment ? Le voile. Suite à l'adoption d'une proposition de loi visant notamment à interdire le port du voile dans les compétitions sportives, le 18 février dernier, le texte continue son cheminement au travers des organes institutionnels. Et est fermement soutenu par Retailleau, Darmanin et Berger. Tenez-vous bien, l'agresseur du ministère de la Justice a même menacé de démissionner si le texte n'était pas soutenu par ses collègues ministres. Mais voilà. Mais vas-y Gérald D, t'es comme Gérard D, donc tu n'es pas irremplaçable, vraiment pas. C'est tout de même incroyable que ces gens soient si prompts à justifier ce type de mesure liberticide, dénoncée par la Ligue des droits de l'homme, en prônant la défense de la laïcité et de la liberté des femmes. Celles-là même qui entretiennent la culture du viol voudraient nous faire croire qu'elles agissent en faveur des femmes. Le monde à l'envers. Et elles n'écoutent jamais les personnes concernées et se servent d'elles uniquement quand elles ont besoin. Si elles écoutaient, et elle comprendrait que lorsque l'on milite contre l'interdiction du port du voile, on ne milite pas pour que toutes les femmes portent le voile. On milite pour que toutes les femmes aient le choix et le droit de porter ce qu'elles veulent. Si elles écoutaient, et elle comprendrait que lorsque l'on milite pour le droit à l'avortement, on ne milite pas pour que toutes les femmes avortent, on milite pour que toutes les femmes aient le choix et le droit de disposer de leur corps et d'avoir ou non des enfants. Il me semblait que ces brefs rappels étaient essentiels au cœur de ces ténèbres où les féministes sont trop souvent diabolisées alors que les masculinistes sont encensés. Ces pauvres petits hommes cis-hétéros qui n'en finissent plus de pleurnicher parce qu'ils ne sont même pas capables de se rendre compte de leurs privilèges. Parfois, l'agacement me démange et j'ai envie de leur crier « Mais si vous pensez vraiment que vous ne pouvez plus rien dire, eh bien alors fermez-la pour de bon, ça nous fera des vacances !» Et puis après, je me dis non. La patronne, elle a dit, on n'est pas misandre. C'est ça. Hein.
Oui, alors on n'est pas misandre, ça veut dire qu'on ne déteste pas tous les hommes. Mais alors certains...
Voilà. Alors, je me reprends et je me dis que c'est un peu logique que beaucoup ne se rendent pas compte. Parce qu'on les a éduqués comme ça. On les abreuve de privilèges à tel point que ça leur semble naturel, complètement normal et que ça devient invisible. Tout est fait pour qu'ils se sentent supérieurs et qu'ils trouvent que les féministes sont hystériques. On minimise systématiquement les violences sexistes et sexuelles, on excuse et on victimise même les coupables en romantisant les drames. Un des exemples les plus criants est détaillé dans un documentaire disponible sur Netflix et intitulé « De rockstar à tueur, le cas Kanta ». Ne disposant pas de cette plateforme, je n'ai pas pu me faire ma propre idée, mais en me renseignant sur ce documentaire, j'ai appris que Marie Trintignant, qu'il avait sauvagement tué en la rouant de coups, il y a 22 ans, n'était pas sa seule victime. Christina Radi, qui avait défendu son mari Bertrand Cantat, s'est suicidée il y a 15 ans après avoir subi ces violences. Pourtant, dans la presse, les médias, les conversations en général, les soirées, on est noyé dans la litanie passionnelle, faisant de cet abominable tueur un artiste écorché. On entend les titres de Noir Désir dans quasi toutes les fêtes populaires. Voilà comment on entretient le patriarcat et la culture du viol. Pourtant, tout comme Gérald D et Gérard D, ces morceaux sont parfaitement remplaçables. De véritables artistes écorchés, sensibles et inspirés, il y en a plein. Écoutez les playlists d'Alex, vous verrez bien. Si on le veut vraiment, c'est tout à fait possible de se débarrasser et de se libérer tous du patriarcat. Je dis bien tous. Parce que quoi qu'ils en pensent, de nombreux hommes subissent aussi cette dictate sans en avoir réellement conscience. Ce truc institutionnel est réellement un poison qui rend malade toute notre société. Comme antidote, une piste se dessine peut-être avec le programme EVARS, à savoir le programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Depuis la loi de 2001, les élèves du CP à la terminale devraient bénéficier des séances d'EVARS au moins 3 fois par an. Par manque de moyens, cette loi n'est que partiellement et inégalement appliquée. Pour tenter de remédier à cette situation, de nouveaux cours d'EVARS vont entrer en vigueur en septembre 2025. Aux grandes dames des associations proches de la droite conservatrice, comme le syndicat de la famille, anciennement Manif pour tous, SOS Éducation ou Parents Vigilants, et des personnalités politiques adeptes des écoles privées sous contrat. Il faut dire que, d'après le collectif pour une véritable éducation à la sexualité, composé d'associations et de syndicats, tels que le planning familial, le CIDFF, SIDAction et d'organisations de la société civile, ce type de séance est un des meilleurs outils de repérage de l'inceste et de prévention de toutes les violences. Voilà qui n'arrange pas vraiment nos adorateurs de curés pédocriminels. Alors, comme elles le font avec le féminisme, et elles essaient de diaboliser ce programme d'éducation en désinformant les plus crédules et en faisant passer ces séances pour de l'apprentissage pornographique. Pourtant, apprendre à réfléchir par soi-même à des questions sociétales fondamentales, dans le respect et la bienveillance, appréhender la notion de consentement, comprendre et apprendre à lire les émotions, apprendre à gérer ses propres émotions et à se respecter les unes et les autres, ça me semble quand même beaucoup plus sain que de subir les assauts de vieux mâles soi-disant éclairés par la lumière divine. Ils se sont sûrement plantés d'ampoule, ou c'était pas le bon voltage, je sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que la lumière, les défenseurs du vieux monde, ils ne l'ont pas à tous les étages. Je vais terminer sur un conseil, pour les pleureuses à la masculinité fragile, que j'ai lu sur une pancarte lors d'un reportage sur une manifestation féministe. Éduquez-vous, écoutez-nous, et foutez-nous la paix.
Wow. Ok. Alors pour parler du reportage sur l'assassinat de Marie Trintignant par Bertrand Cantat, moi je l'ai vu.
Oui, moi aussi, oui. C'est effroyable.
C'est effroyable, c'est oui. D'utilité publique, il faut
oui,
le voir.
Oui, oui.
Je suis retournée.
Et on comprend bien les mécanismes de pourquoi on en est encore là aujourd'hui.
Ouais. Hein, et on se dit que nous-mêmes, il y a 22 ans, on n'avait pas du tout vu les choses de cette façon, parce qu'on voit les choses telles qu'elles nous sont présentées. Hein. On n'est pas enquêteur, on n'est pas... Et franchement, il est d'utilité publique, je ne sais pas si...
Non.
Il y a qu'Alex et moi qui l'avons vu, et, oui. Et c'est vrai que franchement, si vous avez l'occasion, il faut absolument le regarder.
Et je ne sais pas si vous connaissez la radio Binge Audio, ils ont fait un programme B, enfin une émission... Sur 3 épisodes je crois et ils sont revenus justement sur le traitement médiatique notamment de la
femme. C'est surtout ça le problème en fait, c'est bien le traitement médiatique.
C'est le traitement médiatique, oui absolument. Voilà. Oui, c'est... Et les masculins ouin ouin.
Les masculins ouin ouin, un petit coup de masculin.
Allez, on en rêve de ces hommes là.
Je suis un homme blanc, mon avis est intéressant. J'adore le donner quand il n'est pas sollicité.
Calmez-vous, madame, ça va bien se passer.
C'est juste un film de ça.
Je suis un homme blanc, mon avis est intéressant.
Ne sois pas hystérique.
J'adore le donner fréquemment sur tous les sujets.
Ah ouais, et ça te fait quoi que 95% des agresseurs soient des hommes?
Je sais quoi. Je vais y aller hein.
Voilà.
Oh, merci Alex. Je... Il faudrait qu'on réécoute, non? On s'en lassera jamais de ce truc-là. Chers auditeurs et chères auditrices, n'hésitez pas à la réécouter si vous n'avez pas prêté attention au moindre détail, mais je pense que c'était inévitable. Enfin, vous n'avez pas pu passer à côté. Réécoutez. Réécoutez. Je pense que ça aussi, c'est d'utilité publique. Il faudrait peut-être le passer dans les écoles, non? Il faudrait peut-être...
Oui.
C'est... Alors, c'est une pépite que tu nous as trouvée.
Oui, c'est un humoriste qui s'appelle Benoît Arnault.
Oui.
Donc, vous pouvez retrouver ses vidéos sur YouTube. Voilà.
Voilà. Ça illustre bien un passage de ce que nous a dit Annie. Alors, pour terminer avec toi, Flore, Ah ben ça y est, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah, si, tout à l'heure, tu nous as parlé, ben, par exemple, du mois de mars, donc libraire engagé, c'est ce que tu m'as dit aussi avant l'émission. Mois de mars, donc mettre les femmes en avant, il y a eu l'arpentage, mais c'est pas que. L'engagement, c'est pas que au mois de mars et c'est pas que pour les femmes. Il y a aussi d'autres moments, comme par exemple.
Au mois de juin, on fait toujours une vitrine pour les fiertés. C'est pareil, on galère pas trop à trouver des livres, ça va. On a ce qu'il faut dans le magasin toute l'année. Et puis, là, je pense qu'au mois de mai, on fera une petite vitrine sur le travail aussi, parce qu'on se souvient de mai 68. Donc voilà, j'essaye de trouver des petites thématiques de temps en temps pour faire des vitrines, mais pour ressortir un petit peu des livres de derrière les fagots. Et puis après, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est pas forcément faire venir des auteurs... simplement pour les faire venir en dédicace, j'aime bien aussi qu'il y ait des rencontres et qu'il y ait un sens. Donc il y a quelques années, avec une association de médiation culturelle de Fontenay qui a disparu malheureusement, parce qu'on n'aime pas trop la culture des fois, on avait fait venir Gringe, le rappeur, pour parler de santé mentale. Il était venu intervenir dans des lycées. Et puis l'année dernière, à peu près à cette période-là, on avait fait venir Camille Emmanuel, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Lettres à celle qui lit mes romances érotiques » et qui devrait arrêter tout de suite, justement pour parler de tout ce qui est new et dark romance avec les lycéens, les faire réfléchir à ce qu'ils lisent, etc. Et donc, elle avait rencontré les élèves de deux établissements. Et on avait fait une rencontre tout public dans le CDI du lycée, avec des internes aussi. Ça nous avait permis de parler du violentomètre, de parler des spirales de la violence dans les relations toxiques, etc. Et de remettre en perspective aussi que le love bombing, c'est de la manipulation, se faire... espionner ses textos, c'est pas sain, tout ce genre de choses, quoi. Parce que, de toute façon, de manière générale, dans la culture populaire, on est encore là-dessus, quoi.
La connaissance, la culture accède peut-être aussi désormais un peu plus facilement avec cette, je vais pas dire mode parce que ça fait péjoratif, mais ce développement de tout ce qu'on appelle les romans graphiques. Romans, pas que romans d'ailleurs, enfin, les livres graphiques de façon générale, qui sont peut-être plus accessibles à un public où, qui n'aurait pas, ce serait pas plongé dans un pavé, mais comme s'il y a un côté BD, peut-être.
Alors,
la
new romance et la dark romance, on est vraiment sur du roman, on est sur de la littérature,
c'est
pas du tout illustré.
De façon générale, oui, je parlais pas de romance.
Après, oui et non, c'est pas forcément des jeunes qui lisent des romans graphiques, évidemment les jeunes lisent pas mal de mangas.
Mais sans que ce soit les jeunes, de façon générale, enfin je veux dire... lire un livre sur l'histoire d'Olympe de Gouges et puis lire le livre graphique sur Olympe de Gouges, c'est peut-être pas le...
Oui, effectivement, oui, des versions illustrées qui peuvent être un peu plus agréables à la lecture. Quand on est non-lecteur, ça peut aider.
Ouais.
Oui, tout à fait.
Mais merci. Est-ce qu'on remet un petit morceau de musique avant d'accueillir Non, oui, c'est la journée, bien tant pis.
Si, je peux.
Mais vous savez, nous avons l'habitude de travailler avec Alex.
Bon, ok, je vais vous demander.
C'est une question.
C'est le générique de Steak Patate.
Mais on avait dit qu'on n'était pas misandre, ça va pas ça.
Ah, mais c'est le générique de l'émission qui va suivre après nous là.
C'est vrai, mais qui est aussi bonne que la nôtre, tu crois?
Dans un autre genre, mais non, ils sont très bien,
ouais,
dans ce qu'ils font.
Bien sûr, oui. Bien sûr. Alors entre temps, nous avons accueilli dans le studio Tiffaine. Bonsoir Tiffaine.
Bonsoir.
Donc Tiffaine, militante Nous Toutes 85, qui va nous faire une lecture féministe. Qu'est-ce que tu as choisi ce soir?
J'ai choisi un extrait de la BD Culottée de Pénélope Bagieu. Je vais vous lire l'histoire de Lozen, femme guerrière et chamane.
On t'écoute.
Lozen naît près de la montagne sacrée d'Oro Caliente dans un village Shirakawa vers 1840. Son frère Victorio deviendra un grand chef de guerre apache. Très tôt, Lozen annonce la couleur. Les tâches réservées aux femmes apaches l'ennuient. Elle veut de l'action. Elle consent à la cérémonie de passage à l'âge adulte, mais à la fin de celle-ci, elle déclare qu'elle ne se mariera jamais et qu'elle préfère se consacrer à son peuple. Et à cette époque, les Shirakawa ont bien besoin de son aide. Le territoire de sa tribu se trouve entre l'Arizona et le Nouveau-Mexique. La réserve de San Carlos, où est parquée la famille de Lozen, est connue comme étant l'une des pires pour les conditions de vie. Victorio, son frère, devient chef de la tribu et part avec ses hommes attaquer les colonies du Nouveau-Mexique. Accompagné de sa sœur, qu'il considère comme sa main droite, et il dit d'elle qu'elle est forte comme un homme et plus brave que la plupart d'entre eux, sans compter qu'elle est une redoutable voleuse de chevaux. Mais surtout, Lozen est dotée depuis sa naissance de puissants pouvoirs chamaniques. Elle court aussi vite qu'un cheval et guérit les blessures. La guerrière chamane ressent dans ses paumes la position et le nombre de ses ennemis grâce à l'aide de la divinité Yasun. Lozen n'est pas la seule femme à combattre. Une éclaireuse aguerrie et parlant plusieurs langues combat aux côtés de Lozen. On l'appelle Daatest, la messagère et la médiatrice des Apaches. Plus encore qu'une guerrière, Lozen est la protectrice de sa tribu. Elle guide les femmes et les enfants sur le chemin périlleux de l'Exode. Un enfant témoignera plus tard en disant ceci. « Je vis une femme magnifique sur un très beau cheval. » C'était Lozen, Lozen, la femme guerrière. En 1880, les Mexicains attaquent la cachette de la tribu. Mais Lozen doit gérer un imprévu. Une femme est sur le point d'accoucher au milieu de la bataille. Seule, avec un cheval et un fusil, elle va mettre à l'abri la jeune mère et l'enfant à 3 jours de route. En son absence, son frère et ses hommes sont pris dans une embuscade et capturés. Lozen l'apprend, elle fait au plus vite pour délivrer les prisonniers. Malheureusement, elle arrivera trop tard. Elle se sert de sa colère et de son chagrin pour se battre. Pendant 2 mois, sans relâche, elle attaque les Mexicains. Puis, elle rejoint Geronimo et se bat à ses côtés jusqu'en 1886. Elle est ensuite emprisonnée en Alabama et meurt de la tuberculose. Son corps sera rendu aux Apaches afin qu'elle soit enterrée dignement.
Merci, Tiffaine. Donc, c'est une histoire vraie.
C'est ça.
Voilà. Et... bah, j'espère que ça donne envie... aux auditeurs et aux auditrices d'en savoir plus et de poursuivre la lecture des culottés.
Oui.
Voilà.
Il y a plein de belles histoires.
C'est très riche et il y a plein de choses qu'on ne connaît pas en fait.
C'est, hein,
c'est des histoires qu'on ne connaît pas et qui sont déterrées. C'est, Donc il nous reste peu de temps. Peut-être un mot pour conclure très rapidement, Flore, avant qu'on rende l'antenne.
Oui, alors moi je vais vous conseiller une nouvelle collection qui s'appelle Permis de déconstruire, qui est parue aux éditions de La Meute, qui est une nouvelle maison d'édition féministe. Et dans cette collection Permis de déconstruire, les 2 premiers tomes qui sont sortis, qui sont des livres à offrir, on peut les emballer tout de suite et les offrir à Tonton Misogyne. Il y a pour l'instant « Il faut faire confiance à la justice », qui a été écrit par Madame Tuaillon, je ne sais plus, elle est avocate, c'est la sœur de Victoire Tuaillon qui a fait les couilles sur la table. Et puis « Pas tous les hommes quand même », qui a été écrit par Julia Foyce.
Bon, on est tous voilà. D'accord avec ça, hein. Pas tous les hommes quand même, enfin, voilà. Merci Flore, merci d'avoir été l'invitée de notre émission. Merci Tiphaine d'être venue au nom du collectif Nous Toutes 85 comme tous les mois. Je refais passer un petit message concernant le kit graffiti. Il en reste moins de 20, ça c'est sûr. 20 euros et vous avez un écusson, un autocollant
et un
magnet. Et donc, pour soutenir la radio, une radio indépendante, c'est vraiment important. Vous pouvez aussi faire des dons. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le kit. Et le don, c'est le montant que vous souhaitez. Et grâce à ces dons, d'ailleurs, grâce à vos dons, on a pu acheter du nouveau matériel, notamment en termes de micro et de casque, sauf erreur. Donc, ça nous permet d'exister. Et merci. Merci à tous ceux qui nous écoutent, merci à tous ceux qui nous soutiennent, merci à tous ceux qui participent à l'émission et merci à nous.
Oui, merci à nous.
Et vous nous retrouvez bien sûr en podcast dès demain et aussi sur Spotify et Apple Podcast. Bonsoir à tous et rendez-vous le mois prochain.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.